Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Je le répète, on n'est pas contre un accord de commerce avec le Canada. On ne veut pas que les normes sociales, environnementales, que les services publics puissent être affaiblis. Et on ne veut surtout pas d'un tribunal privé qui permettrait à des multinationales d'attaquer les États et leurs législations. Quand on signe un traité international, ça va déterminer la vie des citoyens pour des dizaines d'années. Et donc ça vaut bien encore quelques jours de discussion.
Il est devenu le héros des opposants au CETA, Paul Magnette, président du Parlement wallon, qui dit donc non à l'accord de libre-échange négocié entre le Canada et l'Union européenne, non en tout cas en l'état. Un positionnement fort, alors que la signature était prévue demain jeudi, en présence du Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Un positionnement salué par beaucoup, dont l'eurodéputé français, candidat à la primaire écologiste, Yannick Jadot.
C'est la démocratie qui s'empare du sujet du CETA. Cet accord a été négocié en totale opacité pendant 6 ans. Il devient un objet public.
Un objet public, un ennemi public aussi pour ses détracteurs qui voudraient bien enterrer pour de bon. Un accord qui doit éliminer la quasi-totalité des droits de douane entre l'Union européenne et le Canada. Mais officiellement, à Bruxelles, on y croit encore. Alors que va devenir le CETA ? Le CETA est-il simplement bloqué ou déjà enterré ? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Nicolas Roux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole des Amis de la Terre. Vous êtes l'un de ces détracteurs. Vous êtes opposé au CETA. En face de vous, Cécilia Bellora, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes économiste au CEPI, Centre d'études prospectives et d'information internationale. Votre positionnement est plus modéré car il est celui d'une économiste. Alors, avant de commencer cette discussion entre vous deux, je voudrais que nous entendions l'un des soutiens au CETA. Un eurodéputé, il s'appelle Franck Proust, est français et c'est un eurodéputé de droite. Écoutez.
Vis-à-vis de ces accords commerciaux, j'ai une attitude. Moi, je fixe des limites qui visent à concrétiser des accords qui protègent mes concitoyens, mes entreprises et qui fait que on puisse leur donner un environnement politique pour permettre d'aller gagner des parts de marché sur les pays émergents ou les pays du G7. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec un taux de croissance entre 0 et 2% sur le territoire européen, il est important pour la croissance et donc pour l'emploi de permettre à nos entreprises d'aller pénétrer ces marchés.
Alors Nicolas Roux, le CETA ne permettrait-il pas, comme le dit Franck Proust, aux entreprises européennes d'aller pénétrer le marché canadien ? Est-ce que ce ne serait pas bon pour la croissance européenne ?
Je crois qu'il faut bien comprendre que ces accords comme le CETA, c'est des accords qu'on dit de nouvelle génération. C'est-à-dire, ce n'est pas juste du commerce, de l'investissement, ça va bien au-delà. Ça touche à l'ensemble en fait, des domaines de notre société, c'est-à-dire l'environnement, la santé, l'éducation, l'alimentation, etc. quoi. Et c'est des traités qui bénéficient principalement aux multinationales, aux dépens de la société à son sens large, c'est-à-dire les citoyens, l'environnement, etc. Et donc c'est pour ça que nous, on s'oppose à ce traité, à la manière dont ces traités sont négociés, c'est-à-dire derrière porte close, à l'insu des citoyens.
Mais si ça bénéficie aux multinationales, ça peut aussi bénéficier à ceux qui travaillent pour les multinationales, faire baisser le chômage, augmenter la croissance. À ce titre-là non plus, vous n'êtes pas favorable au CETA ?
On a un peu de recul maintenant, parce que ces accords sont pas... On a eu des accords de libre-échange auparavant, comme l'ALENA, en Amérique du Nord, et les impacts ont été clairement négatifs pour la société dans son sens large. Pour les citoyens, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois, dommages au niveau de l'environnement, au niveau de l'alimentation, de la santé. Donc les chiffres sont là.
Alors, peut-être à vous, Cécilia Bellora, quel est votre positionnement par rapport au CETA ? Vous vous dites qu'il y a des gagnants et des perdants. Alors, qui sont les gagnants, qui sont les perdants ?
Oui, absolument. Il y a des gagnants qui sont, en fait, comme le disait le député, des entreprises qui sont censées gagner des accès au marché canadien. En particulier, on peut penser aux agriculteurs qui produisent des produits sous indication géographique, qui ont été protégés. On peut penser à toutes les entreprises qui vont avoir accès au marché public canadien, ce qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire qu'on avait des marchés publics européens qui étaient ouverts aux Canadiens, mais pas l'inverse. Donc tout ce qui peut être, par exemple, entreprise
de BTP. Donc ça, c'est une sorte de rééquilibrage, vous voulez
oui,
dire ?
Oui, ça, quelque part, c'est un rééquilibrage. C'est du coup, et ça concerne, je pense, aux entreprises du BTP, traitement des eaux usées, par exemple, aussi. Ça peut également profiter à des entreprises plus petites, parce que il y a des accords, enfin il y a des clauses qui concernent des facilitations de visa pour les consultants, par exemple, des discussions sur des Sur tout ce qui est architecte, en fait, c'est sur tout ce qui est architecte, enfin profession libérale, donc architecte et autres. Il y a également pour les exportateurs des facilitations, des certifications. Par exemple, des exportateurs de jouets qui aujourd'hui doivent faire certifier leurs produits à la fois en Europe et au Canada.
Avant là, de pouvoir exporter. Il n'y en a plus qu'une.
Et, à côté
et,
de ça.
Et alors, ces gagnants, avant que vous passiez au perdant, est-ce que vous chiffrez ces parts de marché qui vont être grignotées? Est-ce qu'on a une idée de ça?
Alors, il y a eu des études d'impact qui sont faites. Et c'est là où ça devient justement intéressant à contrebalancer aussi avec les pertes. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a quelques secteurs qui peuvent être extrêmement gagnants. Mais au niveau global, par contre, ça, il faut le reconnaître, les impacts en termes de PIB, ce qu'on trouve, sont souvent très, très faibles.
Alors, là-dessus, peut-être, Nicolas Roux, est-ce que vous souscrivez? Il y a eu une étude britannique, je crois, qui dit que ce CETA pourrait avoir un impact très négatif en matière d'emploi, moins 200 000 sur l'ensemble de l'Union européenne, moins 45 000 sur le sol français. Ça, c'est votre crainte?
Tout à fait. Et d'ailleurs, cette étude se base sur des modèles économiques beaucoup plus réalistes. C'est-à-dire que les études qui sont mises en avant par la Commission européenne sont très optimistes. D'ailleurs, il y a eu un rapport parlementaire en France qui a clairement dit que les études de la Commission européenne sont très optimistes. Et ce rapport, donc, qui a été écrit par des économistes américains, montre clairement que les accords commerciaux comme le CETA, enfin que le CETA, pardon, aura un impact négatif sur l'emploi, c'est-à-dire plus de chômage, un impact négatif sur les salaires, donc baisse de salaire, et aussi un impact négatif sur le PIB.
Sur cette étude, quel est votre positionnement, Cécilia Bellora? Parce qu'elle a été contestée, certains, notamment François Hollande, a dit non, mais on ne sait pas, c'est pas vrai, on n'irait pas signer un accord qui créerait du chômage. Est-ce que vous dites finalement en termes de croissance, ça va être peu? Est-ce qu'en termes d'emploi, vous avez aussi des moyens d'anticiper?
Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, donc je ne connais pas cette étude en particulier, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il y a des coûts d'ajustement souvent qui sont liés à des accords de libre-échange. Pendant longtemps, on a toujours dit c'est des petits coûts d'ajustement. Il y a des études récentes qui montrent que en fonction de la taille du partenaire qu'il y a en face, ces coûts peuvent être très importants et durer dans le temps. Ce qui fait qu'il faut aussi se dire qu'un accord de libre-échange peut apporter des choses à certaines entreprises. Il peut avoir un impact probablement pas très important sur le PIB, mais pour que ça soit équilibré, il faut aussi mettre en place des politiques au niveau national et du coup, dans notre cas, communautaire européen, pour qu'il y ait une redistribution des gains entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent. C'est-à-dire que ceux qui perdent doivent pouvoir récupérer un peu des gains de ceux qui ont gagné.
Et est-ce que et là, c'est prévu? Est-ce qu'il y a des politiques qui vont dans ce sens-là pour
Alors,
l'instant?
Alors, bien entendu, ce n'est pas géré par le traité en lui-même, par le CETA en lui-même. Donc, il faut qu'il y ait une volonté politique et du coup, il faut qu'il y ait des pressions pour que les politiques mettent ça en œuvre, pour que le traité puisse avoir des impacts.
Nicolas Roux, vous faites pression dans ce sens-là ou vous croyez que le CETA est déjà mort et enterré?
Ah non, je ne crois pas qu'il est déjà mort et enterré, au contraire, mais oui, il y a des gagnants et des perdants, mais et encore une fois, quand on regarde l'expérience en Amérique du Nord ou en Amérique centrale, on voit bien que les perdants sont quand même beaucoup plus importants que les gagnants. C'est-à-dire que les gagnants, encore une fois, c'est des grandes multinationales. Et on le voit dans le cadre de l'ALENA ou dans le cadre du CAFTA, un accord qui a été fait avec les pays d'Amérique centrale et les États-Unis. Il y a eu des coûts quand même dramatiques pour l'environnement, pour l'emploi, énormément de pertes d'emplois.
Alors justement, parce qu'on a beaucoup parlé là d'économie au sens strict, et vous disiez en début d'émission, nos réticences, elles ne sont pas que d'ordre économique, elles sont aussi d'ordre environnemental, d'ordre philosophique. Quelles sont-elles dans ce type d'argument?
Exactement. C'est-à-dire, comme je disais, c'est des accords de nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de commerce, d'investissement. Simplement, on parle surtout d'harmonisation des normes. Parce que la principale barrière au commerce actuellement, c'est les normes. C'est-à-dire que les normes en Europe et au Canada ne sont pas les mêmes. Donc les normes, ça peut être les voitures, les jouets, etc. Mais aussi d'autres aspects beaucoup plus importants pour la société, comme l'alimentation. Les OGM, par exemple. Les OGM sont autorisés au Canada. Pour l'instant, en Europe,
mais pour l'instant, on nous promet, comme pour le TAFTA, qu'a priori, le bœuf aux hormones canadien ne viendrait pas sur le marché européen.
Ça, c'est clair que les quotas de viande bovine qui ont été ouverts par les Européens, donc les accès qu'on a donnés aux Canadiens sur notre marché, ce sont des accès pour de la viande de bœuf sans hormones. Donc là-dessus, il n'y a pas à discuter. Et à nouveau, pardon, sur les histoires d'OGM, ça dépend de la réglementation communautaire. Donc il n'y a rien dans le CETA qui dit qu'on est obligé de d'importer des OGM canadiens. Pour le coup, c'est vrai, eux, ils les cultivent, pas nous. Mais pour le coup, nous, on a des autorisations de mise sur le marché qui sont données au niveau européen. Et donc c'est là-dessus que ça va se jouer.
Donc, il n'y a pas d'abaissement des normes.
Le CETA n'oblige pas à importer des OGM canadiens.
Nicolas Roux.
Alors, c'est vrai que le CETA n'oblige rien aujourd'hui s'il est signé demain, par exemple. Mais encore une fois, ces accords sont dits vivants, c'est-à-dire qu'ils sont sujets à évolution. C'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai dans 5 ans, dans 10 ans. Et comme je parlais donc d'harmonisation des normes, il y a un organisme qui s'appelle le Forum de coopération réglementaire qui va justement viser à ce que ces normes soient harmonisées entre l'Europe et le Canada. Et on voit qu'il y a déjà des pressions énormes de la part des lobbies, notamment par exemple le lobby du soja canadien, qui a clairement dit que la Commission européenne s'est engagée à autoriser plus d'OGM, donc de soja OGM à l'importation en Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé cet été? La Commission européenne a autorisé des nouvelles espèces de soja OGM à l'importation en Europe.
Et est-ce donc que ça ne peut pas être négocié dans le CETA pour que ce ne soit pas un accord vivant? Mais alors, ce n'est peut-être pas le bon mot, un accord mort, ce serait bizarre.
L'accord, maintenant, n'est plus négociable.
Cécilia Bellora, sur ce point-là, c'est vrai que c'est un accord vivant et que les choses pourraient changer à ce stade?
Alors, normalement, quand on dit que c'est un accord vivant, c'est parce qu'il prévoit des clauses qui font évoluer justement les listes qui sont prévues à l'intérieur. Là, votre question est un peu différente en disant, à ce stade, est-ce qu'on peut encore avoir la main sur le texte de l'accord en tant que tel, en plus même des listes des produits. Du coup, aujourd'hui, c'est... En fait, on est dans un processus où il va y avoir ratification par les États membres, puisque c'est ce qu'on appelle un accord mixte. Donc, les parlements nationaux vont avoir leur mot à dire là-dessus. Donc, est-ce que ça peut amener à une rouverture des négociations? Il faut en discuter. Ça n'est jamais arrivé auparavant, mais ce n'est pas à exclure.
Alors, je voulais justement qu'on en vienne un petit peu au déroulement des négociations, hein, puisqu'elles ont duré 5 ans, elles ont été terminées il y a un peu plus de 2 ans, il me semble, et c'est l'un des points qui explique la réticence de certains. Elles ont été perçues, ces négociations, comme non démocratiques, hein, les commissaires ne sont pas élus au suffrage universel, les commissaires européens. Alors, Faux nous a répondu tout à l'heure, Franck Proust, qui estimait que la commission était mandatée. Cécilia Bellora, est-ce qu'on peut considérer que le CETA a été démocratiquement négocié, ou est-ce que vous faites partie de ceux qui disent oui, non, c'était limite?
Alors, les processus de négociation aujourd'hui, comment ça se passe? En fait, il y a un mandat de négociation qui est public et qui est voté par l'ensemble des États membres avant le début des négociations, dans lequel, normalement, on fixe au moins des lignes rouges à la Commission. Ensuite, la Commission négocie. Et là, c'est vrai que au cours des négociations, normalement, les parlementaires européens, au moins, devraient être tenus au courant, sans qu'ils puissent forcément s'exprimer, je pense. Du coup, le texte, lui, n'est pas connu, puisqu'il est en cours de négociation, et on l'a connu au final en 2014.
Donc manque de transparence dans la négociation, mais pas après.
Mais par contre, voilà, le texte, on le connaît depuis 2014, et il a été négocié sur un mandat voté par les États membres, et les États membres ont revoté ce mandat en cours de route. Donc il y a quand même un minimum de contrôle, la Commission n'est pas en roue libre là-dessus.
Pour vous, Nicolas Roux, il y a eu déni de démocratie dans ces négociations?
Mais complètement, je dirais. Encore une fois, quand on a des traités qui touchent à des domaines si élargis de la société, qui impactent la vie de tous les jours de tous nos citoyens, on a besoin d'un contrôle beaucoup plus régulier. Le mandat, d'ailleurs, de la Commission européenne n'a été publié qu'à la fin des négociations, l'année dernière seulement. Donc loin, enfin, on est vraiment dans un déni de démocratie total.
Mais alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec le positionnement de la Wallonie, la démocratie, si je puis me permettre, c'est maintenant?
Exactement, et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. C'est que la Wallonie, enfin le Parlement wallon, finalement, c'est le seul qui a fait son travail. C'est-à-dire qu'ils ont examiné l'accord en détail. Et ils ont exprimé donc une opinion ils ont exprimé des réserves, on va dire, quoi. Et maintenant, on les accuse d'être à l'origine d'une nouvelle crise, on leur met des pressions, alors que la vraie crise, c'est le déni de démocratie en Europe, qui est assez, assez extraordinaire quand même. On reproche, encore une fois, quand on voit le processus d'approbation du traité, le processus de négociation en secret, c'est ça le problème en Europe actuellement, la démocratie. Et c'est à dégoûter les europhiles les plus convaincus, dont je fais partie d'ailleurs.
Cécilia Bellora, je vois que vous vouliez réagir.
Oui, alors juste une précision, c'est parce qu'effectivement, on a entendu en premier la Wallonie, parce que ils ont eu le moyen, et ça c'est lié à leur fonctionnement fédéral en Belgique, de s'exprimer sur un vote que devait avoir leur ministre des Affaires étrangères pour mettre en quelque part le CETA dans le tuyau des signatures, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls qui se sont exprimés. En fait, après le vote qui devait avoir lieu, donc le 18, que les Wallons, en fait, sont en train de bloquer, il doit y avoir un vote du Parlement européen, d'où débat démocratique possible, et ensuite vote de l'ensemble des parlements nationaux. Donc en fait, c'est juste que ce sont les premiers qu'on a entendus parce que leur système leur permet d'intervenir maintenant. En toute théorie, les débats des parlements devraient avoir lieu ensuite aussi.
Alors, je voudrais qu'on écoute en principe justement ce que déclarait hier le chef de file des libéraux au Parlement européen, le Belge Guy Verhofstadt.
Il y a une possibilité que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il va y avoir le feu vert donné par le Parlement wallon. C'est une des possibilités. Sinon, eh bien, il y a une réunion des ministres de commerce le 11 novembre. Et à ce moment-là, ils peuvent aisément décider de faire du CETA une compétence à 100% européenne. Alors on évite 38 approbations par les parlements régionaux et nationaux.
Alors Nicolas Roux, faire du CETA une compétence à 100% européenne, ça vous paraît être une bonne idée?
Si on est antidémocratique, oui, c'est une bonne idée. Mais pour nous qui défendons la démocratie en Europe, c'est extraordinaire, c'est hallucinant d'entendre de tels propos. En gros, ça veut dire que puisque les citoyens s'opposent à ces traités, autant faire ça entre technocrates, entre nous, derrière porte close, et imposer ça au reste de la société. Non, je suis désolé, la démocratie, ce n'est pas ça.
Alors Cécilia Bellora, peut-être l'impact, s'il y avait un passage en force comme ça, sur de futures négociations ou des négociations qui sont en cours aujourd'hui. L'Union européenne, elle négocie avec le Japon un traité de libre-échange qu'on aimerait, je crois, signer, enfin conclure en 2017. Il y a aussi avec le Vietnam, où ça a été déjà décidé et ça doit être ratifié. Il y a évidemment le TAFTA avec les États-Unis. Cette polémique, cette affaire CETA, elle a quel impact pour ces futures négociations?
C'est clair que ça remet en partie en discussion la capacité de négocier de côté Union européenne. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, les Canadiens se trouvent dans une position où pour eux, ils ont fait le boulot de négociation, ils ont fait le job de négociation. Et maintenant, c'est côté européen où on commence à leur dire « Attendez, en fait, on n'y arrive pas bien ». Et donc, ce qui voudrait dire que les autres partenaires potentiels se disent « Mais attendez, on n'arrive pas à négocier avec lui en entier, ça prend extrêmement longtemps, après on n'arrive pas à les ratifier, ils ne se mettent pas d'accord, etc. » Bon, ça c'est un des risques. Par contre, agiter ça comme un drapeau pour dire « Attendez, il faut faire passer ça sans en discuter au niveau des parlements », ça me paraît par contre un jeu tout aussi risqué, parce que du coup c'est des vrais problèmes au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, par rapport à ce qui a été dit, ça a été, c'est une décision de la commissaire et du président de l'UE de dire c'est un traité mixte et il faut voter, et c'est effectivement un traité mixte. Donc voilà.
Nicolas Roux, vous craignez pas quand même les possibles effets d'une fin du CETA? Il y a quand même eu des années de négociations en termes d'image pour l'Union européenne, l'éventuel impact économique sur d'autres accords, ça vous fait pas réfléchir?
Je pense que l'épisode CETA nous donne l'opportunité de prendre un peu de recul et d'essayer d'analyser la situation et de voir que les citoyens ne veulent plus de ces accords. Ne veulent plus de ce type de société, en fait. Donc il faut arrêter avec la surenchère sur le néolibéralisme, sur plus de pouvoir aux entreprises, sur la croissance à tout prix, etc. On voit bien, depuis les 30 dernières années, ça ne marche pas.
Mais est-ce que l'unanimité, ça freine pas aussi certaines décisions européennes? En l'occurrence, c'est le cas, mais pour d'autres décisions qui seraient peut-être plus favorables, plus dans vos cordes, ça la freine aussi? Il faut la conserver, cette unanimité?
Je pense qu'actuellement, la façon dont l'Union européenne marche a montré ses limites. Donc, qu'il y ait besoin d'une refonte du système de l'Union européenne, je suis plutôt favorable.
Et oui, Cécilia Bellora.
Il me semble en fait que il y a quand même un travail de pédagogie qui n'est pas fait du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît les contenus exacts de ce traité. Du coup, c'est long, c'est 2300 pages, c'est hyper technique, mais je pense que tout n'est pas à jeter à la poubelle et c'est tout. Du coup, il y a un vrai travail de décrypter ce qui est bon là-dedans et ce qui ne l'est pas, y compris pour aller de l'avant. C'est-à-dire, soit on jette complètement les questions de libre-échange, donc on ne veut plus signer aucun traité, on n'a plus de partenaires commerciaux et c'est fini. Soit, si on veut aller de l'avant, eh ben, il faut commencer à se dire qu'est-ce qui nous plaît là-dedans et qu'est-ce qui ne nous plaît pas.
Donc la question, en fait, elle n'est peut-être pas institutionnelle, elle est plus dans la pédagogie des dirigeants européens à expliquer leurs décisions.
Il y a aussi un travail à faire là-dessus en disant voilà pourquoi on négocie, voilà pourquoi on ne négocie pas, et voilà qui est intéressé par ça, et voilà qui ne l'est pas. Et à ce moment-là, on pourra avancer.
Un dernier mot, Nicolas Roux, 10 secondes.
Juste pour dire que nous, bien sûr, on n'est pas contre le commerce, on est pour les échanges entre les pays, mais faire du commerce, ce n'est pas donner carte blanche aux multinationales pour faire ce qu'est le bon leur semble.
Merci beaucoup Nicolas Roux, porte-parole des Amis de la Terre, Cécilia Bellora, économiste au CEPI, Franck Proust, député européen, merci également à Sigrid Azerwal et à Steven Hesley. On se retrouve demain pour un nouveau débat.
Du 29 octobre au 5 novembre,